15h-16h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma compagne, mon compagnon de route, Ombline. Comment ça va?
Ça va bien, bonjour Olivier, bonjour à tous.
Vous le savez, nous partageons comme chaque jour de 15h à 16h vos expériences de vie, votre vécu nous intéresse. Fin octobre, une vidéo devient virale. On y voit un jeune homme braqué avec une arme factice son enseignante. La classe politique s'en émeut et les enseignants aussi. Sauf que c'est leur quotidien. Sous le mot-clé hashtag pas de vague, ils sont nombreux à avoir dénoncé sur Twitter les comportements violents, les insultes et les agressions qu'ils subissent au quotidien par des élèves, mais aussi par des parents d'élèves. Ils dénoncent aussi l'inertie, le silence de leur hiérarchie face à cette violence. Certains pointent le manque de formation des enseignants sur ces problématiques. D'autres, l'hypocrisie des établissements qui ne veulent pas de vague, justement. Aujourd'hui, ils sont nombreux à dénoncer leurs conditions de travail. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a évoqué des mesures pour contrer ces violences. Parmi elles, par exemple, la présence de policiers dans les établissements. Le projet complet sera présenté d'ici le 15 décembre. La violence à l'école, que faire? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Vous n'hésitez pas à composer dès maintenant le 39-21, 50 centimes la minute. Vous n'hésitez pas à nous écrire sur Twitter, hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Hugo au 39-21. Bonjour Hugo. Bonjour Hugo. Vous êtes
Bonjour.
Là? Vous allez
oui.
bien?
Oui, oui, très bien, et vous?
Oui, ça va. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Hugo?
Alors, j'ai 36 ans et je vous appelle de Grigny, dans l'Essonne, j'enseigne dans un établissement là-bas, en REP+.
D'accord. Grigny qui est dans quel département? C'est la Seine-Saint-Denis ou...
En Essonne, 91.
Dans le 91, ouais. D'accord. Vous êtes professeur de français depuis 11 ans en collège, vous travaillez dans des REP, les réseaux d'enseignement prioritaire, pardon. Vous dites que le hashtag pas de vague vous a beaucoup touché car il vous a rappelé vos débuts dans ce métier. Pourquoi, en fait? Que s'est-il passé au début?
Mon histoire est tristement banale, en fait. Je me suis retrouvé projeté dans un établissement. En me rendant compte, comme quasiment tous les collègues, que la formation que j'avais eue jusque-là était extrêmement théorique et qu'il était très difficile d'appréhender ce qui m'attendait vraiment dans le métier lorsque je suis arrivé, à savoir... dans des classes qui ne sont pas toujours bien disposées devant un professeur qui forcément va commettre des impairs, n'aura pas forcément les réflexes qu'il faut pour gérer une classe. Et donc, c'était une première année qui a été extrêmement difficile, tant au niveau comme je le disais, du comportement des élèves, de son estime de soi aussi, parce que lorsqu'on sort d'un cours et que ça a été le bazar pendant une heure, ben on se demande si on est vraiment fait pour ce métier.
Ouais.
Et puis, en fait, ce problème de, finalement, que faire? Parce que on peut en parler aux collègues, et c'est d'ailleurs ce qui est recommandé, mais finalement, réussir à se créer sa propre personnalité, son propre masque de professeur, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile et dans lequel on est très peu accompagné.
Lorsque vous décrivez ces débuts et ces classes mal disposées, comme vous dites, vous vous heurtez à quel type de comportement, en fait? Parce qu'on sent que ça n'a pas été loin de la panique, ce que vous avez vécu.
Ah oui, complètement. La plupart des établissements, le fait d'être un nouvel arrivant vous étiquette tout de suite comme quelqu'un que l'on va tester. On va voir, les élèves vont souvent voir ce qui vous fait réagir, ce sur quoi ils peuvent transiger. En fait, il y a toujours une période de test qui est quelque chose d'assez normal pour des adolescents, mais qu'on vit plus ou moins bien lorsqu'on est jeune enseignant et qu'on a envie de bien faire, tout simplement.
Mais justement, avant de parler des parents d'élèves, parce que vous avez été concerné par un incident concernant un parent d'élève, lorsqu'ils testaient vos limites, en fait, ça allait jusqu'où?
Oh, ça pouvait aller relativement loin, ça pouvait être s'amuser à balancer des projectiles relativement volumineux dès que j'avais le dos tourné, ça pouvait être des insultes qui fusent, qui bien sûr ne sont adressées à absolument personne, ça pouvait être des menaces parfois, donc oui, c'est des choses qui peuvent aller très loin les premières années.
On parle là d'un manque de respect total, là.
Absolument.
Pratiquement. Okay. Il y a 8 ans, vous avez été séquestré par un père d'élève suite à un conseil de discipline où sa fille avait été renvoyée. Vous pouvez me raconter comment ça s'est passé?
Oui, ben écoutez, vous avez tout à fait bien résumé le début de l'histoire. Une fois que le verdict, si je puis dire, a été rendu, le papa d'élève s'est énormément énervé.
Oui.
Il a fermé l'unique porte en fait qui permettait de sortir de la salle et a dit que personne ne sortirait tant que il n'y aurait pas eu une révision de ce conseil de discipline. Et en fait, il y a eu presque une confrontation physique. Il a failli en venir aux mains avec la principale de l'époque. Et en fait, on a dû s'interposer pour éviter que les choses deviennent violentes. Et en fait, il a fallu que la police finisse par intervenir.
À travers cet incident, on voit combien la violence des élèves peut être constatée, puisque cet élève ne se retrouvait pas là par hasard, on s'en doute. Mmh. Mais il y a aussi la violence des parents d'élèves. Est-ce que pour vous, finalement, c'est lié ? Est-ce que les parents sont responsables finalement de l'attitude de leurs enfants en classe ? Parce qu'il y a une éducation à la maison normalement à donner.
Bien sûr, mais je pense que pour qu'on en arrive là, il faut qu'il y ait un désarroi immense de la part des parents qui, parfois ne comprennent tout simplement pas ce qu'on fait à l'école, des élèves qui ne comprennent pas non plus forcément pourquoi ils sont là. Et moi, en fait, je pense qu'on est vraiment l'état de l'école est extrêmement symptomatique de l'état de la société en général.
Ouais.
C'est-à-dire que finalement, il est extrêmement difficile pour des élèves parfois, oui, de comprendre à quoi sert l'école, parce qu'ils ont beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir, ils ne voient pas quel avenir cette société leur réserve. Donc pourquoi bien travailler à l'école, pourquoi venir, pourquoi apprendre. Ce qui nous attend, c'est un avenir qui n'est pas spécialement radieux, en fait.
On va continuer à en parler dans quelques instants. Hugo, vous restez avec nous.
Europe 1. Vous partagez ce que vit Hugo, on a envie de vous entendre également. Venez témoigner au 39 21 50 centimes la minute. Cet après-midi, on parle de la violence en milieu scolaire, des agressions contre les enseignants, contre des élèves. Vous pouvez aussi nous écrire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous êtes enseignant, élève, vous ne vous sentez pas en sécurité à l'école, au collège, les insultes, les coups, nous parlons avec vous de la violence en milieu scolaire. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39-21 pour nous appeler.
Et nous avons toujours Hugo en ligne qui nous expliquait combien il était difficile dès les débuts d'affronter les cours, ces élèves qui vous testent, qui testent vos limites, hein, surtout Hugo. Justement, vous évoquiez notre société et justement qu'est-ce que cela dit du regard que cette société porte sur les professeurs, à votre avis ? Comment vous le ressentez, ce regard ?
J'ai l'impression que c'est un regard qui est très ambivalent. On met à la fois beaucoup d'espoir sur nous, on espère qu'on va réussir à créer en quelque sorte une société qui sera meilleure de par l'éducation.
Oui.
Et d'un autre côté, j'ai un peu l'impression que nous sommes également le couvercle qui cache des problèmes qui existent depuis toujours et dont finalement ces problèmes de comportement ne sont que les symptômes. Alors que finalement l'éducation d'un enfant, et ça c'est une conviction ferme, c'est une éducation qui se fait à plusieurs, les parents bien entendu, tous les personnels d'éducation qui font souvent un travail qui est extraordinaire mais dont on réduit drastiquement les postes, je pense aux infirmières, je pense aux CPE, je pense aux surveillants également.
Ouais.
Donc en fait c'est vraiment, on met sur nos épaules beaucoup beaucoup de choses, parfois trop, ce qui fait qu'on craque. On n'est pas seulement enseignant, on est psychologue, on est conseiller d'orientation parce qu'on pourvoit au manquement de la société.
Et justement, est-ce que vous avez été formé à tout ça ? Parce que vous évoquez beaucoup, beaucoup de missions tout à coup. Est-ce que vous avez l'impression d'être à 10 000 lieues de la formation que vous avez reçue ?
Ah oui, totalement. On n'est absolument pas formé pour ça. On passe notre temps justement à se former. Alors la formation est une de nos obligations. Hein, c'est dans notre lettre de mission. Mais très souvent, on se trouve bien démuni parce qu'on ne sait pas, où se tourner. Par exemple, je suis professeur principal de 3e cette année, donc je m'occupe d'orientation. Finalement, on doit un petit peu se mobiliser pour se former comme on peut sur le tas, parfois avec des profils d'élèves qui sont très très spécifiques. Et je le répète, le fait qu'on supprime tous ces postes qui tournent autour de l'éducation rend notre mission très malaisée et parfois moi, j'ai peur de faire plus de mal que de bien.
Justement, en fait, cette impression de faire plus de mal que de bien, est-ce que, à votre avis, finalement, ce manque d'organisation dans l'école et le fait que ces élèves le sentent obligatoirement que le professeur ne peut pas répondre à tout ce qu'ils demandent, est-ce que il n'est pas là le problème ? Est-ce que ça ne provoque pas justement ce malaise chez eux ?
Si, bien sûr. Il y a chez les élèves, comme je le disais, il peut y avoir beaucoup de violence, mais je pense que cette violence, elle est à la hauteur des attentes qu'il pose sur nous, parfois même sans s'en rendre compte. Certains attendent de nous un modèle qui peut être presque de l'ordre du familial, de l'affectif. Plus une classe est difficile, plus y a de l'affect dans cette classe. Certains attendent de nous un plan pour l'avenir. Bref, on est au croisement de multiples attentes et avec des effectifs qui montent toujours un peu plus, avec des profils qui deviennent toujours un peu plus compliqués. On passe notre temps maintenant à accueillir des élèves qui ont des profils par exemple de dyslexiques, des élèves qui ne sont pas francophones, et on nous demande de les inclure, mais nous on se demande comment est-ce qu'on peut apporter à chacun ce dont il a besoin.
Alors on va parler d'un cliché aussi lié à l'école et justement à ces parents d'élèves qui interviennent de plus en plus violemment auprès des professeurs. Vous dites que plus on est dans un collège de milieu socio-professionnel élevé, plus il y aura de remise en cause du professeur. Que voulez-vous dire par là ?
Je pense que l'enseignement est un métier qui est assez paradoxal parce que tout le monde est passé par l'école. Donc en fait, tout le monde a un avis sur l'école. Seulement, bien sûr, être du côté des bureaux change beaucoup. Et en fait, j'ai l'impression que dans des milieux socio-professionnels peu élevés, l'école est encore vue comme une sorte d'ascenseur social. Donc on a souvent des parents qui nous font finalement relativement confiance. Mais plus on enseigne dans un milieu socio-professionnel élevé, plus l'école semble être une sorte de passage un peu obligé, et que finalement, si le professeur n'est pas très bon, c'est pas très grave, parce qu'il y aura toujours d'autres façons d'éduquer son enfant, et donc du coup il y aura plus facilement des remises en cause de son savoir, de son expertise.
Jean-Michel Blanquer s'apprête à annoncer des mesures concernant l'école, et comme je l'ai évoqué au début de cette émission, la présence de policiers dans les établissements. Moi, cette annonce, elle me fait un peu bizarre, quoi. Vous en pensez quoi en tant que professeur ?
Elle me fait bondir également. Pour moi, l'école est sanctuarisée. C'est un endroit où l'élève apprend à connaître le monde, mais il en est d'une certaine façon protégé. Et puis, quel aveu d'échec. C'est-à-dire que si on fait rentrer des policiers, ça veut dire que, clairement, on reconnaît que finalement, c'est un endroit dans lequel il y a des délits, un endroit aussi dans lequel il faut surveiller des élèves qui sont potentiellement dangereux, oui. Alors que finalement, il y a tout un tas de mesures à mettre en place en amont, qui sont peut-être beaucoup moins spectaculaires, qui sont peut-être beaucoup plus techniques et beaucoup moins intéressantes, mais qui sont, à mon avis, tout aussi efficaces. Et c'est un peu le problème, je trouve, de ce gouvernement depuis son arrivée au pouvoir, c'est-à-dire multiplier des mesures qui sont très spectaculaires de l'extérieur, mais qui en fait n'ont absolument aucun effet. Je pense en particulier à l'interdiction du portable, qui est un mensonge et honteux.
Merci beaucoup Hugo pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite bon courage et de ne pas lâcher, surtout dans la mission qui est la vôtre. Dans quelques instants, nous accueillerons Audrey. Elle a subi une agression dans son établissement et dénonce les réactions de sa hiérarchie.
Je vous lis un message sur le Twitter, hashtag pas de vague. Message d'écureuil, cours de gestion dans une classe de terminale. Madame, j'ai pas mes affaires. Vous connaissez la sanction, en étude. 14 élèves sur 30 se lèvent, quittent la classe. Sanction aucune, sauf pour moi, pneus crevés, portières rayées.
Europe 1.
Harcèlement, provocation, insultes, la violence à l'école, vous y avez été confronté, vous le vivez aujourd'hui. Vous témoignez, on vous écoute au 39-21. Vous pouvez aussi nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Entre 15h et 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39-21, pour partager avec nous votre histoire. Vous avez été victime de violences en milieu scolaire. Écrivez-nous et réagissez également via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et nous avons eu Hugo au 39-21 qui nous expliquait combien la formation qu'il avait reçue était loin de la réalité qu'il avait eu à affronter avec ses élèves. Et nous sommes maintenant avec Audrey. Bonjour Audrey, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Merci.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
J'ai 42 ans et j'appelle l'Académie de Lyon.
D'accord. Alors, vous êtes professeur en collège depuis 16 ans. Les insultes et autres agressions verbales, vous avez connues. Puisqu'un jour, vous étiez en train de parler à un élève et un autre groupe d'élèves s'est regroupé autour de vous. Racontez-moi ce qui s'est passé ensuite.
Après avoir reçu donc des crachats, des invectives et des cailloux de la part de ces élèves qui refusaient en fait que je m'intéresse à un de leurs camarades à l'extérieur du collège, je suis retournée dans mon collège. J'ai évidemment rapporté les faits à ma principale de l'époque, qui m'a rendue responsable de l'agression en disant que j'avais outrepassé mes responsabilités, que j'aurais jamais dû m'adresser à un élève en dehors du collège. Évidemment, ça m'a laissé sans voix. J'imaginais pas que je serais lâchée comme ça par ma hiérarchie. Donc je suis allée voir le médecin qui m'a arrêtée parce que j'étais en état de choc. Je suis allée porter plainte, évidemment. Il n'y a pas eu non plus de conseil de discipline à l'intérieur de mon collège. Donc,
comment vous expliquez que votre hiérarchie vous ait lâché?
Honnêtement, elle a, je pense, simplement appliqué quelque chose qui est assez courant encore aujourd'hui, notamment dans mon académie, qui est de détourner le regard sur les problèmes qui peuvent se poser.
Mais pourquoi? Pour faire baisser les statistiques, c'est ça?
Voilà, oui, pour faire baisser les statistiques, parce qu'en fait, ne pas pointer les problèmes, ne pas révéler la réalité de ce qui peut se passer dans un établissement, à ses abords ou dans les classes, c'est refuser, en fait, de voir les problèmes qui se posent dans l'école aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est une façon, en fait, de laisser les gens se dépatouiller avec ce qui se passe. Oui. Mais de plus en plus, la situation aujourd'hui fait que les profs se sentent un peu abandonnés et face à des difficultés à gérer au quotidien qui commencent à dépasser largement leurs compétences.
Cette violence que vous avez vécue à travers des crachats, des jets de pierre, c'est une violence que vous constatez grandissante dans le cadre de votre métier ou c'est quelque chose...
Alors, pour moi, la violence physique... à l'égard des professeurs, elle reste à peu près stable, enfin en tout cas dans mon ressenti. Après, le problème, c'est qu'il y a aussi une omerta sur les chiffres des agressions physiques dans l'éducation nationale. Et normalement, quand il y a un incident grave qui se produit dans un établissement, les chefs d'établissement doivent faire remonter ça auprès du rectorat.
Oui.
Et c'est pas toujours fait, donc du coup, les statistiques sont pas très fiables. Donc c'est assez difficile pour les enseignants de fonder sur autre chose qu'un ressenti de leur propre expérience dans leur établissement. Mmh. Ce que je vois le plus, finalement, c'est une violence qui se produit entre élèves. Et oui. On parle beaucoup du harcèlement entre élèves. Oui. Donc c'est un problème qui s'étend tout simplement parce qu'aujourd'hui, bon, nombre de parents sont au chômage, en difficulté sociale, économique, grandissante, c'est difficile pour des enfants, finalement, de séparer leur vie privée et leur vie à l'école. Mmh. Et voilà. En fait, cette violence, elle passe par l'intimidation physique ou l'intimidation avec des mots simples qui tuent leur quotidien.
Mmh. Et c'est le quotidien de nombreux profs, hein, cette intimidation par les mots, hein, simplement. Vous évoquiez les parents.
Moi, je comprends la crainte des parents. Je dis pas que l'école, c'est le Far West. Hein. On n'en est pas là. Ouais. Fort heureusement, il y a quand même encore des cadres qui tiennent le coup. En puisant, en fait, dans leur réserve, dans leur énergie.
Ouais. Est-ce que vous auriez aimé recevoir une formation? Est-ce que vous auriez aimé, lorsque vous avez appris ce métier, est-ce que vous auriez aimé qu'on vous mette au courant de certaines situations et qu'on vous y prépare?
Malheureusement, en fait, j'ai envie de dire qu'il y a quand même beaucoup de choses dans le métier d'enseignant qui ne peuvent s'apprendre que sur le terrain, au contact même des élèves, au contact des collègues. Ce qui est vraiment formateur, c'est le terrain, mais un terrain qui serait vraiment encadré de façon encourageante, en fait, déculpabilisante, pas par des inspecteurs ou des formateurs qui ont quitté les classes et qui viennent nous dire une fois tous les 5 ou 10 ans votre boulot est mauvais, vous êtes en retard sur le programme ou quoi. Voilà. J'ai envie de dire que pour que ce soit parfait dans mon collège et dans tous les collèges de France, l'idéal, ce serait vraiment qu'on ait plus de gens à la disponibilité des élèves pour les aider, pour les encadrer, des assistantes sociales, des infirmières, des médecins scolaires, des surveillants, voilà. Mais on n'a pas besoin d'avoir des policiers dans nos classes ou dans nos collèges. Ce dont on a besoin, en fait, c'est de gens qui sont présents pour aider les élèves, pour être disponibles pour eux, voir quand ils décrochent, leur apporter vraiment une aide qui correspond à leurs besoins. Mais il faut tout simplement, en fait, offrir à ces élèves la certitude qu'il y aura des gens pour les accompagner et les aider quand ils en ont besoin.
Merci Audrey pour votre appel et votre témoignage au 3921. Pour nous permettre de nous éclairer sur la question des violences à l'école, nous allons accueillir dans quelques instants François Jarreau. C'est un ancien enseignant, aujourd'hui rédacteur en chef du Café Pédagogique, un site d'information et de réflexion sur l'éducation.
Un message à nouveau sur le Twitter, hashtag pas de vague, ce citoyen. La pression de la hiérarchie n'est pas la seule en cause dans le désordre des profs, le manque de solidarité des collègues qui préfèrent parfois regarder ailleurs ou culpabiliser les autres en disant, avec ma gestion de classe, il n'y aurait pas eu de problème.
Europe 1.
On parle de la violence à l'école, les agressions verbale, physique, que subissent les enseignants. Vous y avez été confrontés. Venez en discuter avec Olivier Delacroix sur l'antenne d'Europe 1. Appelez-nous le 3921. Quand l'école ou le collège devient un enfer pour les enseignants agressés, insultés par des élèves, la violence à l'école, psychologique, verbale, physique, Olivier Delacroix vous écoute au 3921.
Et nous avons eu Hugo qui enseignait du côté de Grigny et puis ensuite Audrey dans l'Académie Lyon. Et tout ce qu'on peut dire suite à ces deux témoignages, c'est que le métier de professeur est loin d'être évident aujourd'hui. Et nous allons continuer à en parler justement avec François Jarreau qui lui est ancien enseignant, aujourd'hui rédacteur en chef du Café Pédagogique, un site d'information et de réflexion sur l'éducation. Bonjour et soyez le bienvenu sur notre antenne, excusez-moi François Jarreau.
Merci, bonjour Olivier.
Bonjour. Alors, sans tomber dans la caricature des gentils professeurs face aux méchants élèves, y a-t-il tout de même une escalade de la violence scolaire ces dernières années ?
Une escalade, je ne sais pas si on peut le dire. En tout cas, il y a sûrement des nouvelles formes de violence scolaire. On trouve maintenant des élèves qui sont vraiment en refus de l'institution scolaire.
Oui.
Il y a sûrement des raisons à ça. Et ça, c'est un phénomène assez nouveau.
Mmh. À travers ce que l'on voit, on évoquait cette vidéo qui a été largement diffusée, et puis encore ce matin au Havre, où on évoquait un élève de 12 ans ayant menacé sa professeure, sans parler d'escalade, mais dans la manière, on a l'impression qu'on a dépassé les limites, parce qu'on parle d'armes factices, par exemple.
Oui, bon, à vrai dire, ces formes de violence-là, moi je l'ai connue quand j'étais lycéen, il y a très, très longtemps.
Alors, ah oui.
pas avec des revolvers factices ou vrais, mais en tout cas des violences physiques dans les deux sens d'ailleurs. Hein. Mm-hmm. C'était assez courant quand j'étais lycéen. Mm-hmm.
À quoi elle est due cette violence aujourd'hui ? On avait Hugo qui évoquait le manque de perspective de ces élèves, en fait, des élèves qui sont dans l'insécurité finalement quant à leur avenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Alors j'ai trouvé vos deux intervenants vraiment remarquables et tout à fait intéressants. Effectivement, il y a la question du sens de l'école qui se pose pour beaucoup d'élèves, ne serait-ce que parce que l'école est extrêmement injuste. Et quand l'injustice globale du système éducatif est redoublée d'injustice locale, par exemple dans les punitions, ça pose effectivement des problèmes.
Mmh. Hugo et Audrey évoquaient le manque de suivi, en tout cas d'appui de la hiérarchie. Est-ce que finalement un enseignant peut-il faire sans le soutien de cette hiérarchie et finalement, en réalité, doit-il le faire tout seul ?
Alors, il y a deux réponses, en fait. D'abord, évidemment, les établissements qui fonctionnent bien sont des établissements où les gens fonctionnent ensemble. Et ça suppose que la hiérarchie est une posture qui, justement, ne soit pas trop hiérarchique. C'est ce qu'on trouve quand même plus souvent, par exemple, à l'école primaire, où il n'y a pas de hiérarchie locale, en dehors de l'inspecteur qui n'est pas dans l'école.
Oui.
Et plus rarement, dans les établissements secondaires, où là, il y a un supérieur hiérarchique qui est sur place.
Oui, mais on évoque souvent une hiérarchie frileuse à l'idée de sanctionner un élève, par exemple. Est-ce que, comme le disait Audrey, les statistiques rentrent vraiment en compte par rapport à ça, ou est-ce que c'est une attitude générale ?
Non, je pense que derrière ça, et c'était l'autre versant de ma réponse, il y a un mouvement de fond qu'on voit monter depuis des années, ça c'est pas nouveau, qui est vraiment la perte de confiance dans la hiérarchie, et elle a tout un tas de raisons à ce mouvement-là. On voit par exemple dans une grande enquête qui est faite chaque année par un des syndicats qui porte sur des dizaines de milliers de profs et qui ne sont pas forcément adhérents du syndicat, où on voit vraiment la coupure très nette entre les enseignants et leur hiérarchie.
Mmh.
Ça monte de plus en plus. Et je dirais que le spectacle que vivent aujourd'hui les enseignants, où somme toute du fait des réformes nouvelles qui prennent à 90 degrés le contraire de ce qui se faisait il y a quelques années, ou quelques mois même. On voit toute la hiérarchie changer de discours du jour au lendemain et en plus en disant qu'ils ont toujours pensé ça, etc. etc. Ça contribue au discrédit de cette hiérarchie.
Mmh.
Ce que vivent les profs en ce moment, c'est ça, hein, que ce soit au collège, à l'école ou au lycée, nouveau programme avec une hiérarchie qui tient à un discours contraire de ce qui est le discours qui était tenu il y a 2 ans.
Mmh. Mais outre la violence des élèves, vous dites que les enseignants subissent des violences de toutes parts depuis plusieurs années, de leur hiérarchie, des parents d'élèves, de leur image en somme. Pourquoi ont-ils une si mauvaise image ?
Alors, à vrai dire, l'image des enseignants, les enseignants pensent qu'ils ont une très mauvaise image.
C'est ce qu'ils pensent, ouais.
Oui. Oui. Je ne suis pas certain que ce soit tout à fait la réalité.
Non, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je n'ai pas du tout une mauvaise image des professeurs de ma fille. Je suppose qu'Ombline, c'est la même chose pour vous, non ?
Non, je n'ai pas de
problème. Oui, oui.
Ouais. Mais justement, vous évoquez un truc, c'est que beaucoup de professeurs pensent qu'ils ont une mauvaise image. D'où oui. ça vient, ça, pour vous ?
Ah, d'où ça vient ? Ça a été évalué internationalement. Hein. Les enseignants français sont ceux qui estiment qu'ils sont les moins considérés de tous les pays de l'OCDE.
Oui. Mais à votre avis, vous qui avez été enseignant,
ça tient sûrement au niveau du salaire.
Oui.
Le pouvoir d'achat des enseignants est bloqué depuis des années. Il est faible, il n'augmente pas, il diminue en réalité. Ça tient probablement au fait que la place de l'école, ça a été bien dit par un des intervenants, est de plus en plus lourde dans la société. Donc le niveau d'exigence, de complexité qu'on attend d'eux est de plus en plus grand. Alors qu'en échange, la société leur donne de moins en moins.
Mmh.
Concrètement, les enseignants doivent se débrouiller avec tous les élèves, tous les jeunes, y compris des jeunes qui sont en grosses difficultés personnelles,
oui.
y compris avec des handicaps lourds. Ils n'ont pas la formation pour le faire et ils ont très peu d'intervenants pour les aider, ils en ont de moins en moins. Mmh. On voit bien, il y a des suppressions de postes, mais il y a aussi les suppressions de toutes les aides qui pouvaient exister en dehors, que ce soit les RASED, par exemple, c'est-à-dire des réseaux d'aide qui existent aux primaires, ou les assistantes sociales, ou les médecins scolaires. Tout le réseau est quand même en train de s'effilocher. Et en ce qui concerne les médecins scolaires, on peut même dire qu'on va le voir disparaître.
Et on voit des professeurs de plus en plus esselés, finalement, et avec une mission qui grandit de mois en mois. Restez avec nous, François Jarrot. Je rappelle que vous êtes un ancien enseignant et aujourd'hui rédacteur en chef du Café Pédagogique. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Lucie. Elle a subi des violences à l'école de la part de ses camarades de classe et elle s'est sentie abandonnée par le corps enseignant. Donc on va en discuter ensemble pour voir ce qui s'est passé, même par rapport à la hiérarchie qui s'est occupée de ce conseil disciplinaire.
Europe 1. On parle de la violence en milieu scolaire cet après-midi. Cela vous est arrivé, vous êtes enseignant, vous êtes peut-être élève comme Lucie qu'on va entendre. Vous nous racontez au 39 21 50 centimes la minute. Quand les intimidations, les insultes, les agressions font partie désormais du quotidien à l'école, vous avez été victime de violences en milieu scolaire. Venez témoigner, nous raconter votre histoire au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours avec François Jarrot, ancien enseignant, aujourd'hui rédacteur en chef du Café Pédagogique. Pardon. François Jarrot, justement, en fait, pour revenir à cette violence à l'école, ce manque de limites qu'ont les élèves, faut-il mettre en place des formations, éduquer encore plus ces élèves au vivre ensemble?
Le problème, c'est pas d'éduquer les élèves au vivre ensemble. La formation, c'est plutôt ce que demandent les enseignants, c'est une formation à la gestion de classe. Ça, oui, faut savoir que la formation continue dans l'éducation nationale est à un niveau très faible, qu'en plus, elle n'est pas choisie, elle est mal organisée, elle est souvent très décriée par les enseignants, donc il y a un gros travail à faire sur la formation des enseignants.
Et cette formation, elle va être revue dans quelques temps. Est-ce qu'elle elle fait partie des mesures que le ministre de l'Éducation va annoncer dans quelques jours?
Alors, il y a une réforme de la formation initiale, c'est-à-dire des enseignants qui vont rentrer dans le métier, qui est prévue, dont on connaît mal encore les détails, mais dont on peut penser qu'elle vise surtout à récupérer des postes, c'est-à-dire à transformer des postes de fonctionnaires stagiaires, pour rentrer dans le détail, en postes d'étudiants avec une bourse, vous voyez.
Oui.
Mais je suis pas certain qu'ensuite, les vraies questions qui sont celles de l'accompagnement, en fait, des enseignants dans leur carrière, que cette question-là soit vraiment prise en compte, parce que ça suppose qu'il y ait des postes, qu'il y ait des emplois.
Oui. Et ça, c'est pas prévu, si j'ai bien compris.
Voilà.
Vous restez en ligne avec nous, François Jarrot. Nous sommes maintenant en ligne avec Lucie. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Lucie.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, je viens de Lyon et j'ai 19 ans.
D'accord. Alors, quand vous étiez au lycée, vous étiez très proche de deux filles. Hein. Vous avez commencé à vous rapprocher plus de l'une d'elles, ce que d'abord, dans un premier temps, l'autre a mal vécu. Et ça a commencé par des insultes, des regards méchants, jusqu'au jour où cette fille vous a séquestré dans une salle. Racontez-moi brièvement comment ça s'est passé.
Alors, en fait, donc c'était à la fin d'un cours. Les autres élèves étaient sortis et en fait c'était la fin de la journée. Cette fille-là, donc sa sœur l'a rejoint et rentrée dans la salle. Et après donc elle a fermé la porte et a soulevé la poignée avec sa main pour m'empêcher de sortir. Voilà, donc la responsable pédagogique était juste en face, juste à côté, et malgré mes appels, elle n'est pas intervenue alors qu'elle m'avait entendue.
Oui.
Ça, j'en suis convaincue.
Est-ce que cette jeune fille a été sanctionnée ensuite?
Non.
Et comment vous l'expliquez, ça?
Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle était première de classe.
Oui.
Et que l'établissement voulait protéger, en fait, son taux de réussite. La deuxième, en fait, c'est que sa sœur était ancienne élève et pour éviter de faire des histoires, voilà, ils ont préféré étouffer l'affaire en quelque sorte. Moi, j'ai été entendue après cette fille et sa sœur, ce que j'ai trouvé complètement révoltant puisque c'est moi qui ai été agressée,
ouais, ouais.
C'est moi qu'on a entendu en dernier. Évidemment, malheureusement, la responsable pédagogique avait complètement pris parti pour cette fille et sa sœur. Moi, quand je suis arrivée derrière, j'avais demandé en fait une sanction, on va dire, intelligente, c'est-à-dire une heure de colle durant laquelle elle faisait une dissertation, une rédaction, peu importe, en se plaçant de mon point de vue à moi, comment elle aurait réagi si elle avait été à ma place. Et ça a été refusé. Mmh. Voilà.
Bon, en fait, là, on parle voilà, d'un acte grave, hein, d'une séquestration dans une classe. On parle d'une violence d'élève à élève. Mais j'ai envie de dire que cette violence, elle est, si elle est d'élève à élève, elle est aussi envers les professeurs. Je me tourne vers vous, François Jarreau. On évoque cette violence entre élèves, on évoque ces violences envers les professeurs. Mais là, on évoque plus précisément une hiérarchie qui, dans un cadre disciplinaire, tourne les yeux. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui va dans voilà, que vous constatez et qui vous est rapporté par vos collègues, vos ex-collègues?
Est-ce qu'on peut dire que la hiérarchie tourne les yeux? Elle tourne pas les yeux sur des incidents graves. Elle peut la hiérarchie éviter de faire des rapports, de rentrer dans des cycles disciplinaires. Je dirais que surtout elle ferme les yeux sur les besoins de formation des enseignants, oui.
Mmh. Ouais, mais enfin, dans un cas comme celui-ci, en fait,
ce cas, si vous voulez, on n'y était pas.
Non,
mais
la
jeune fille elle-même pense que la personne en question, l'adulte en question, j'ai pas bien compris, si c'était un professeur ou autre chose. L'adulte en question l'a entendu. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Mm-hmm. Je ne sais pas.
Oui.
Si vous voulez, le cas du harcèlement entre élèves, qui est un cas réel, c'est un des rares domaines où l'école a vraiment progressé. Là,
d'accord,
on peut le dire parce qu'on a une enquête internationale,
mm-hmm,
et on a des enquêtes de victimisation nationale qui montrent ça. Il y a une véritable baisse des cas de harcèlement.
Mm-hmm.
Ceci dit, il y en a toujours trop. Il y a à peu près 10% des enfants qui se font harceler à l'école, et c'est évidemment beaucoup trop. Il faut encore mm-hmm baisser.
Et le sentiment, en fait, général par rapport à ce que vous dites, hein, il faut encore baisser, c'est que justement, on va rarement au bout de ces histoires de harcèlement. On y va, mais en tout cas, pas encore assez. Merci en tout cas, Lucie, pour votre appel et votre témoignage. François Jarreau, restez en ligne avec nous. Nous allons accueillir dans quelques instants Karine, enseignante depuis 20 ans. Pour elle, les professeurs ont tellement une mauvaise image que c'est normal que cela se répercute sur les élèves.
Europe 1. On évoque aujourd'hui la violence à l'école, les menaces, la peur, les insultes. Vous y êtes confrontés, vous composez le 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous discutons cet après-midi de la violence en milieu scolaire.
Et nous accueillons maintenant Karine au 39-21. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Karine.
Bonjour, merci beaucoup.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Karine?
Alors, j'ai 49 ans et je vous appelle de Charente-Maritime, où je suis enseignante.
Et vous avez travaillé pendant 20 ans dans plus de 30 établissements de tous les niveaux. Vous constatez qu'il y a de la violence partout aujourd'hui?
Oui, c'est quand même assez global. C'est vrai qu'en étant passé dans des collèges, des lycées professionnels, on voit quand même cette violence, souvent verbale en réalité,
oui,
s'étendre de plus en plus et devenir un peu la norme.
Qu'entendez-vous par cette violence verbale? C'est la manière dont les élèves ont l'habitude de s'exprimer aujourd'hui?
Oui, alors c'est la façon dont ils s'expriment, et puis c'est aussi l'agressivité qu'ils ont à notre égard,
oui,
et les mots qu'ils utilisent. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un élève qui va dire excusez-moi l'expression, mais grosse pute à une prof, bon ben ça devient presque quelque chose de rigolo et peut-être pas de normal, mais en tout cas ça s'entend très régulièrement et c'est assez dérangeant puisqu'on a peu de moyens en fait de lutter contre ça.
Vous dites que ça, en fait, vous l'entendez régulièrement.
Oui, mais je pense que la première violence à notre égard, en fait, vient de la société en général.
Et qu'entendez-vous par là, justement? Elle vient de la société?
L'image qu'on a dans la société est très négative. Alors, outre le fait qu'on est traité de feignant et de tout ce genre de choses,
oui,
on est aussi souvent, notre professionnalisme est remis en cause énormément. Et ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans la société, dans les conversations, dans les familles.
Mmh.
Et je pense que les élèves qui entendent ça à la maison, comment voulez-vous qu'ils aient une image positive de l'enseignant qui est en face d'eux?
Ce que vous voulez dire par là, c'est que c'est finalement la faute du professeur, maintenant, si l'enfant n'est pas bon à l'école?
Oui, c'est la faute du professeur si l'enfant n'est pas bon, c'est la faute du professeur si l'enfant se conduit mal. C'est-à-dire qu'en fait, on nous culpabilise pour tout.
Mmh. Voilà. Vous avez eu l'impression de faire plus de la discipline plutôt que de l'enseignement. Racontez-moi ça.
Personnellement, quand je travaillais en collège, oui. Dans certaines classes, plus, sur 55 minutes de cours, le temps qu'ils arrivent, etc., passer 20 minutes, si on met bout à bout toutes les choses qu'on a à dire, alors sort ton cahier, arrête de répondre, etc., et c'est permanent. Et ce qu'il y a, c'est que c'est aussi aux alentours de l'établissement, c'est dans la cour, c'est dans les couloirs, C'est tout le temps, en fait. Ouais, et ouais. C'est très fatigant.
On a vu ce matin encore qu'un jeune élève de 12 ans avait encore menacé sa professeure du côté du Havre. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce type de fait divers, un élève de 12 ans? Est-ce que ça vous paraît, vous, en tant que professeur, normal? En tout cas, ça rentre dans votre normalité aujourd'hui?
Non, ça rentre pas dans la normalité. C'est quand même quelque chose de relativement exceptionnel. Ceci étant dit, on peut aussi être amené à être menacé par des parents. C'est assez fréquent. En réalité, je pense que les enfants ayant cet exemple-là, ils ne voient pas l'école comme un service public, mais vraiment comme quelque chose où ils ont des droits. Eh bien, ça se répercute sur les enfants qui n'ont pas forcément ces repères. On donne une instruction, une éducation à des enfants. L'État est quand même là pour donner ça, quoi. Je crois que ça s'oublie.
Vous constatez que c'est surtout au collège que les élèves sont violents et insultants. Oui. Vous trouvez que c'est vraiment plus flagrant qu'avant?
Ah oui, très nettement.
Et pourquoi ça, à votre avis?
Parce que je pense, comme je vous disais, qu'il y a eu une espèce de dérive dans la société par rapport aux services publics. Alors là, je le mets au pluriel en général. Où les gens se font dans le clientélisme, donc en fait ils demandent, ils exigent des choses de nous. Et puis je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient aussi que nous on gère de l'humain. Voilà, donc gérer de l'humain, c'est gérer des émotions, c'est gérer une société, c'est gérer des classes sociales, c'est gérer plein de choses. Mmh. On est bien obligé d'y mettre un cadre.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Karine, pour aujourd'hui stopper, en tout cas ralentir cette attitude des élèves, en tout cas ce comportement de plus en plus violent à votre avis?
Je pense qu'il y a une chose vraiment essentielle, c'est que tous les adultes qui sont dans l'institution de l'éducation nationale parlent de la même façon aux élèves, en fait, et aux parents. Le problème, c'est qu'il y a souvent des différences énormes entre ce qu'un élève ou des parents peuvent entendre de la part de certains adultes et d'autres. Mais à un moment, dans la chaîne éducation nationale, quelque chose ne fonctionne pas, parce qu'on ne parle pas forcément le même langage. Et un professeur qui va être agressé verbalement ou même physiquement va effectivement prendre les devants, demander des sanctions, etc. Et ça ne sera pas forcément suivi dans la chaîne éducation nationale. Mmh. Et puis, faire comprendre aussi à la société qu'on n'est pas des incompétents contre leurs enfants, mais qu'on veut, au contraire, qu'ils sortent tous de l'école en ayant un projet et des choses à faire et avoir appris des choses. Mmh. Et en fait, c'est notre but à tous. Mais beaucoup de gens ne l'entendent pas comme ça, en fait.
Merci beaucoup Karine, c'est la fin de cette émission. Merci aussi à Hugo, à Audrey, François Jarrot, Lucie et tous les auditeurs qui ont essayé de nous appeler pendant cette émission. C'est malheureusement la fin de cette émission. Grâce à vos témoignages, il apparaît qu'être enseignant, c'est être une cible facile. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui de nombreux postes d'enseignants sont vacants. On remarque aussi que si la violence a toujours existé, aujourd'hui il semble plus difficile de punir. Les enseignants se sentent incompris et seuls, car il ne faut pas faire de vagues justement pour reprendre le hashtag qui a fait son apparition sur Twitter. Pour beaucoup, avoir des policiers dans les établissements, comme le suggère Jean-Michel Blanquer, ne résoudrait pas grand-chose. Il faut redorer l'image des enseignants et peut-être que si la société comprend mieux leur rôle et les traite différemment, alors on peut espérer faire réduire ces comportements violents. Vous pouvez continuer à en débattre sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux.
Oui, le groupe de l'émission est le vôtre, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook d'Europe 1.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble d'un sujet encore tabou, le viol conjugal. Pour certaines femmes, il est difficile de mettre le mot viol sur ces relations sexuelles forcées et ou violentes avec leur partenaire. Si vous êtes ou si vous avez été victime de relations sexuelles forcées avec votre conjoint, mais qu'il vous est encore difficile de mettre des mots dessus, si vous avez porté plainte car vous en avez été victime, si quelqu'un de votre entourage a été victime de viol conjugal, eh bien appelez-nous dès maintenant au 3921 pour nous parler de votre histoire. Ma chère Ambline, j'étais ravie de passer cette heure avec vous.
Également.
On est un petit peu en retard. Mille excuses, ma chère Laurence.
Non, c'est pas grave.
Mais puisqu'on va se marrer, on va se détendre.
Non, on va se détendre avec Frédéric Mitterrand.
Avec Frédéric Mitterrand.
Oui, Mitterrand.
Mitterrand. Pas de la croix.
Fred.
Pas de la croix, de la croix.
J'ai jamais dit de la croix.
Non, mais
d'accord,
je dis ça.
Okay,
c'est,
d'accord.
Mitterrand.
Ne commencez pas à m'attaquer.
Mitterrand, c'est plus beau.
Oui, c'est plus beau, ouais. Voilà. C'est Fred, Fredo.
Bon, eh bien, une bonne émission, les filles. On se retrouve demain à 15h.
À demain.
Salut, les filles.
À tout de suite avec Laurence Boccolini sur Europe 1.